3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro. Produit cinématographique destiné à enchanter un jeune public, les Serials ont vu le jour en 1912. C'est en effet à cette date que le premier film à épisode intitulé « What Happened to Mary » fut produit par la société Edison. Chacun des 12 épisodes formait en soi une histoire complète tout en demeurant reliés les unes aux autres qui décrivaient les aventures d'une orpheline campée alors par l'actrice Mary Fuller. Mais la période la plus importante de ce type de film tourne autour de la période allant de 1933 jusqu'au milieu des années 1950, soit du début du cinéma parlant jusqu'à environ 1956 avec l'essor de la télévision dans les foyers américains. Durant cette période, le Serial, qui était donc une histoire divisée généralement en 12 ou 15 chapitres d'environ 20 minutes, développera une audience jeunesse et les sujets comme les héros étaient voués à faire revenir le jeune public dans les salles chaque samedi matin. En effet, pour corser le tout, un péril mortel et parfois fort astucieux attendait notre héros à la fin de chaque épisode, le mettant dans une situation qui mettait alors sa vie en danger. Cela incitait donc plus que fortement nos spectateurs à revenir la semaine suivante, ne serait-ce que pour spéculer sur l'identité du traître, découvrir comment notre héros allait mystérieusement s'en sortir, ou alors s'assurer que les plans de domination ou de destruction de la Terre allaient être détournés. Malgré son importance économique au sein de ce type de production, le Serial fut la plupart du temps considéré comme un genre mineur. Pourtant, nombreux furent les acteurs, techniciens et réalisateurs qui firent leurs premières armes dans le métier en travaillant dans les serials, établissant dans un même temps les conventions d'un genre maintes fois reprises dans des productions de plus grande envergure. Et c'est ce type de produit cinématographique qui inspira en 1973 George Lucas à créer cet archéologue aventurier du nom de Indiana Smith en lui donnant au passage le prénom de son chien. Le premier film de cette saga, Raiders of the Lost Ark, allait devenir une source d'inspiration pour plusieurs jeunes qui décideront alors d'aller étudier l'archéologie. Le 12 juin 1981 sortira en salle le premier volet des aventures de notre héros, dont le nom de famille sera alors changé pour Jones et mettra en vedette Harrison Ford, dont la cicatrice sur le menton, héritée d'un accident de voiture dans la réalité, donnera une touche de crédibilité au personnage qui a plus souvent besoin de se servir de son fouet que d'une brosse à dents pour déterrer un bout de poterie. Donc, camouflez votre peur des serpents et sortez vos connaissances de l'histoire, car je vous propose ici, dans cette édition de Programme Double, la continuation des aventures d'Henry Jones Jr., mieux connu sous le nom d'Indiana Jones.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
What is it?
Say, what is it?
Hey, why, it's buttercup. Popcorn and sweet cream butter to hot popcorn. Mix it up, wrap it up, buttercup is born.
It's delicious.
So nutritious.
It's a taste delight.
It's so munchy,
crisp and crunchy.
You'll enjoy each bite.
Eat butter drenched, buttercup, popcorn at its best.
Served in a king-size cup.
show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Indy, son père, ils les ont pris.
Est-ce que vous croyez que le Graal existe?
Junior!
Vous en prie, ne m'appelez pas comme ça.
Retrouvez-le et vous trouverez le Graal.
J'ai entendu plusieurs fois ce conte pour enfants.
La vie éternelle, professeur Jones. Le don de la jeunesse pour celui qui voit au Graal.
Après toi, Junior.
Mais c'est intolérable!
Pas de billets.
J'ignorais que tu savais piloter un avion.
Piloter, oui. Atterrir, non.
Tu appelles ça de l'archéologie?
Vous êtes dingue, ne passez pas entre les deux.
Passez entre les deux, mais vous êtes dingue.
Accrochez-vous.
Partager tes aventures.
C'est une expérience intéressante.
Indiana Jones and the Last Crusade, ou Indiana Jones et la dernière croisade, est un drame d'aventure qui a été distribué en salle par les studios Paramount Pictures le 24 mai 1989. Ce film américain d'une durée de 128 minutes aura coûté plus de 48 millions à produire, mais amassa plus de 474,3 millions de dollars au box-office mondial. Pour la troisième fois, nous retrouvons sur le siège du réalisateur le metteur en scène américain Steven Spielberg, qui nous avait donné Duel, Jaws, Jurassic Park et bien sûr 1941. À ses côtés, on retrouve le producteur britannique Robert Watts, qui lui avait produit les films Alive et Who Framed Roger Rabbit. Et au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste Jeffrey Baum, celui qui avait écrit les scénarios des films The Dead Zone, The Lost Boys et Inner Space. Dans la distribution, on y retrouve bien sûr Harrison Ford dans le rôle titre, Sean Connery dans le rôle de son père, Alex Hyde White, Delholm Elliott qui fait son retour ici après être apparu dans le premier volet, tout comme John Rhys Davis, Allison Dooley et finalement Julian Glover. L'histoire de The Last Crusade se situe en 1938 où Indiana Jones, un archéologue aventurier, apprend que son père, qui a consacré sa vie à la recherche du Graal, est retenu prisonnier quelque part en Europe. Pour le retrouver, il se rend d'abord à Venise où il prend contact avec une jeune femme qui aidait son père dans ses recherches avant sa disparition. Avec elle, il découvre dans un souterrain de la ville un document leur permettant de préciser l'endroit où est caché l'objet biblique précieux et cherche alors à libérer son père qui semble être retenu par un groupe de nazis qui convoitent aussi le Saint-Graal. En 1977, lorsque Lucas proposa à son ami le réalisateur Steven Spielberg le personnage d'Indiana Jones, il était déjà entendu entre les deux hommes que si le premier film était un succès commercial, qu'ils feraient ensemble une trilogie. Après les réactions mitigées du deuxième volet de la saga, Spielberg décida alors que le prochain chapitre des aventures de Jones serait beaucoup plus léger et beaucoup moins violent que son précurseur et celui-ci désirait ramener l'esprit bon enfant de Raiders of the Lost Ark. En mai 1985, la première écriture du scénario fut confiée au scénariste-réalisateur Chris Columbus, avec qui Spielberg avait travaillé sur des films tels que The Goonies, Gremlins et Young Sherlock Holmes. L'histoire, à ce moment-là, suivait Indiana Jones qui partait sur la piste du roi singe et de la fontaine de jouvence. Le scénario fera alors l'objet d'un second brouillon, mais finalement, Spielberg rejeta de nouveau le scénario, n'ayant pas le courage d'aller tourner en pleine Afrique subsaharienne des scènes où Indiana Jones poursuivrait un tank nazi à dos de rhinocéros.
George Lucas lui propose à nouveau de travailler sur l'histoire du Saint Graal, qui était une idée originellement proposée pour le deuxième film de la série, alors que Spielberg, lui, propose d'y ajouter une dimension familiale en introduisant le père d'Henry Jones. Ce sont ces deux idées qui seront finalement le point de départ de ce nouveau volet. Spielberg embauchera alors Menno Meyez, qui avait travaillé sur les scénarios de The Color Purple et Empire of the Sun, et ce dernier débutera alors l'écriture d'un nouveau script le 1er janvier 1986. Après plus de 10 mois d'écriture, Meyez y mettra un autre 10 mois pour y apporter des correctifs, mais encore une fois, le résultat final n'arrivera pas à satisfaire Lucas et Spielberg. Cela prendra plus de 5 ans avant de trouver une histoire intéressante qui saura plaire aux deux hommes. C'est finalement le scénario de Jeffrey Baum qui venait d'écrire Inner Space pour Spielberg qui fut la lumière de départ pour cette nouvelle production et qui forcera alors Spielberg à abandonner la réalisation de deux projets sur lesquels il travaillait, soit Big et Rain Man. Spielberg commence alors à réunir son équipe. Afin de trouver l'esprit de Raiders, il rappelle autant que possible l'équipe originale. Harrison Ford, à qui l'on propose le projet, est très emballé à l'idée d'inclure le père d'Indy dans cette histoire, car cela lui permettra de montrer de nouvelles facettes de son personnage. Il signe donc ici son contrat pour un troisième film en février, rejoignant ainsi Spielberg, Lucas, John Rhys Davies dans le rôle du fidèle Sala, Doug Slocomb, le directeur de la photographie, Elliot Scott, chef décorateur, John Williams, le compositeur musical, Michael Caine au montage et Robert Watts, Frank Marshall et Kathleen Kennedy à la production. C'est une équipe de premier ordre dont les membres sont tous ravis de se retrouver pour un troisième tournage. L'acteur Delhomme Elliott sera également de retour pour le rôle de Marcus Brody, dont le personnage deviendra ici l'aspect comique du film. Mais malheureusement, l'acteur découvrira qu'il est atteint du sida juste avant le début du tournage et sera très malade durant toute la production. Les acteurs Harrison Ford et Pat Roach furent les deux seuls acteurs à jouer dans les trois premiers films de la franchise. Roach, lutteur professionnel devenu acteur, faisant de courtes apparitions dans Raiders, Temple et The Last Crusade comme figurant. Malheureusement, Roach allait décéder d'un cancer de l'œsophage en 2004, ce qui l'empêchera de participer au dernier film de la saga, soit Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Le premier jet du scénario de Baum sera remis en septembre 1987. Grâce à lui, les idées de Lucas et de Spielberg s'ajustent harmonieusement et c'est également à ce moment que le ton du film devient résolument comique. Mais c'est vraiment dans cette dernière version du scénario que l'on décidera alors de revisiter la jeunesse du personnage principal. On embauchera alors Tom Stoppard, qui n'apparaîtra pas au générique, pour effectuer des retouches finales au scénario. L'homme sera payé pour la modique somme de 120 000 $ pour son travail et obtiendra un bonus d'$1 million après la sortie du film qui eut un énorme succès au box-office. Pendant ce temps, la distribution s'active et l'on recherche qui pourrait incarner le père d'Indiana Jones. Pour Spielberg, c'est une évidence. Étant un fan de la franchise James Bond, Spielberg n'y voit que l'acteur Sean Connery pour le rôle. Mais George Lucas n'est pas d'accord car il craint que l'aura de James Bond n'empêche le public de voir le père d'Indy. Cependant, pour Spielberg, cela ne fait aucun doute car Indiana Jones est en quelque sorte un rejeton de James Bond qui fut une des grandes sources d'inspiration pour la franchise de l'archéologue. Il contacte donc lui-même Sean Connery, qui est alors ravi d'accepter son offre, même s'il craint aux premiers abords que la faible différence d'âge entre lui et Harrison Ford, puisqu'il n'y a que 12 ans de différence entre les deux hommes, ne se révèle problématique. À peine est-il attaché au projet que Connery fourmille d'idées pour étoffer son personnage qu'il trouve un peu inconsistant au niveau du scénario. C'est d'ailleurs ce dernier qui aura cette idée qui définira finalement la relation entre le père et le fils, soit tout ce que fait Indy dans cette histoire, je l'ai déjà fait en mieux. C'est l'actrice Alison Doody qui obtiendra le rôle d'Elsa, l'archéologue nazie. L'actrice de 21 ans, qui n'a jamais pris de cours de théâtre, apprendra alors à parler avec l'accent autrichien et interprétera un personnage qui, lui, est à l'aube de la trentaine. Pour incarner le jeune Indiana Jones, c'est Harrison Ford qui va proposer à Spielberg l'acteur River Phoenix, avec qui il avait travaillé sur le film The Mosquito Coast, qui avait été réalisé par le metteur en scène Peter Weir en 1986. Spielberg, qui avait été époustouflé par la performance de Phoenix dans Stand By Me de Rob Reiner en 1987, rencontra alors le jeune homme et l'engagera aussitôt. Pour le grand méchant de l'histoire, Walter Donovan, ce sera l'acteur Julian Glover qui obtiendra le rôle, principalement grâce à son amitié avec son voisin, qui n'était nul autre que le producteur britannique Robert Watts. C'est en effet Watts qui va pousser ce dernier à auditionner pour le rôle d'un sergent allemand dans The Last Crusade, rôle qu'il n'obtiendra finalement pas. Pourtant, le lendemain, son agent va l'appeler pour lui dire que Steven Spielberg souhaiterait le revoir pour un autre rôle, soit celui de Donovan, le grand méchant de l'histoire, et au bout de 20 minutes, le rôle sera à lui. Lorsque tout cela sera terminé, eh bien, on débutera le tournage du troisième volet des aventures de Jones. La production débutera en Espagne avant de se rendre en Allemagne de l'Ouest, en Italie, en Jordanie, en Angleterre et finalement aux États-Unis. Plus de 63 jours seront nécessaires pour compléter toutes les séquences principales. Pour la scène du char d'assaut allemand, Lucas désirait inclure dans l'histoire une scène avec un char de la Première Guerre mondiale. Le superviseur des effets spéciaux mécaniques George Gibbs a construit lui-même le char avec 28 tonnes d'acier, lui conférant un aspect solide et lourd. La difficulté de cette séquence, cependant, était liée à la vitesse peu importante du char qui allait environ à 18 km/h. Il fallait en effet créer l'impression de vitesse avec des chevaux qui galopaient aux côtés, mais qui risquaient alors de le distancer en quelques pas. La solution, créer un second char d'assaut beaucoup plus petit en aluminium et aux chevilles en polyuréthane, pouvant être tiré par un camion sur lequel on installerait des caméras pour les gros plans des acteurs. Encore une fois, Harrison Ford va réaliser la majorité de ses cascades, mais c'est quand même son cascadeur personnel, Vic Armstrong, qui sera également de retour pour une troisième fois pour doubler l'acteur dans des séquences jugées trop dangereuses. La séquence du char d'assaut ne devait être à l'origine qu'une séquence prévue pour 2 jours et demi de tournage, mais finalement, il en prit plus d'une dizaine à tourner puisque Spielberg, en réalisant le storyboard, prit la décision d'en faire la scène d'action principale de son film. Une fois la majorité des séquences extérieures terminées, l'équipe se déplace à Londres pour tourner dans les Cannon Hill Street Studios qu'elle connaît par cœur puisque c'est là qu'on avait filmé en partie les 2 premiers films de la franchise. Malheureusement, à cette époque, l'économie anglaise du cinéma est en récession et les studios Hill Street sont menacés de fermeture, ce qui entraînerait la disparition des techniciens et acteurs de l'industrie cinématographique anglaise et la perte d'une expérience centenaire. C'est pourquoi Spielberg, accompagné de Frank Marshall, est allé en personne entre 2 prises de vue aux chambres du Parlement pour plaider la cause du studio. En proposant aux élus de subventionner les studios pour les conserver, les 2 hommes vont tout de même réussir à sauver en partie le studio Hill Street. Cette parenthèse artistique et politique refermée, il faudra tourner maintenant la séquence des rats. Pour trouver suffisamment de rongeurs qui ne soient pas vecteurs de maladies, Marshall n'a d'autre choix que de faire appel à des éleveurs qui vont alors faire reproduire plus de 2000 rats et, finalement, en plus de 5 mois, on va obtenir un montant total de plus de 5000 rats pour les besoins de la scène. Pour l'extérieur vénitien, l'équipe se déplace sur place pour une journée seulement et espérait bien sûr éviter l'été et la saison touristique. Malheureusement, c'est raté, l'endroit est bondé de monde, mais on va quand même trouver un endroit bordé par un canal comprenant une église qui peut être privatisée de 7h le matin à 13h l'après-midi. Cet endroit s'appelle le Campo San Barnaba et toutes les scènes sur le Grand Canal vont être donc bouclées en moins de 5 heures. De retour aux États-Unis, eh bien le monteur Michael Caine a déplacé sa salle de montage du Royaume-Uni à Los Angeles dans les bureaux d'Emblem Studios. Il monte intensément, Et c'est en regardant son travail que Spielberg et Lucas réalisent qu'il n'y a pas assez d'action dans le film. Ils décideront alors d'ajouter la poursuite en moto lorsque les Jones s'enfuient du château. Elle est tournée très rapidement aux environs de San Francisco, près du Skywalker Range de George Lucas. Finalement, le dernier défi à relever fut la mort de Donovan. En effet, la technologie du morphing vient d'à peine d'être inventée et il aura fallu filmer séparément l'acteur portant des maquillages représentant l'âge qui le gagne et trois marionnettes simulant les différents stades de putréfaction pour en faire par la suite une prise homogène à l'aide de l'ordinateur. Ce plan n'est rien de moins que le tout premier plan numérique composite de toute l'histoire du cinéma. De son côté, Spielberg termine de monter le film avec Khan, qui coupe de manière à intensifier les émotions au maximum. Début 1989, c'est à John Williams maintenant d'entrer en scène. Le compositeur boucle très rapidement l'enregistrement de la musique en deux sessions, et ce, à la mi-février. Indiana Jones and the Last Crusade sortira finalement aux États-Unis le 24 mai 1989 sur 2327 écrans. Les critiques seront mitigées, mais qu'à cela ne tienne, le film remportera 11 millions de dollars dès le premier jour d'exploitation. Ce sera alors la première fois dans toute l'histoire du cinéma américain qu'un film dépasse les 10 millions de dollars de recettes le jour même de sa sortie. Ben Burtt et Richard Hymns remporteront l'Oscar des meilleurs sons et effets sonores en 1990, alors que The Last Crusade remportera également le prix Hugo du meilleur film en 1990 et le prix de la meilleure trame sonore de film réalisée par John Williams aux BMI Film Awards de 1990. Après la sortie de The Last Crusade, Lucas est vidé de son énergie créatrice et, malgré l'enthousiasme de Spielberg et Harrison Ford à l'idée de continuer les aventures de l'archéologue, il demande à s'arrêter. Tandis que les autres voguent vers de nouveaux horizons, c'est Lucas qui va s'embarquer seul dans la production d'une série télé intitulée The Young Indiana Jones Chronicles de 1992 jusqu'à la fin de l'année 1993, en poussant jusqu'en 1996 avec la réalisation de quatre téléfilms qui, à ce moment-là, lui avaient été inspirés directement par le prologue de The Last Crusade. Ce sont des épisodes d'environ une heure qui mettent en scène un Indiana Jones enfant, qui est interprété alors par l'acteur Corey Carrier, ou encore adolescent, qui était alors interprété par l'acteur Sean Patrick Flannery, l'acteur River Phoenix ayant décliné le rôle car il ne souhaitait pas faire de la télévision, et font traverser à Jonesy des événements clés du début du 20e siècle. Harrison Ford fera lui-même une apparition pour introduire et clôturer un des récits de l'histoire. C'est d'ailleurs lors du tournage de cette séquence avec Harrison Ford qu'une idée frappera Lucas, la possibilité d'avoir un Indiana Jones plus âgé, permettant alors à l'action de se passer dans les années 50 et ainsi rendre hommage aux films de série B de science-fiction de cette époque. Du côté des points forts, Indiana Jones and the Last Crusade a la qualité de revenir à ses sources et de nous donner un film beaucoup plus proche de Raiders avec son humour et son action beaucoup plus présente que Indiana Jones and the Temple of Doom. Une des raisons pour laquelle le film The Last Crusade fonctionne si bien, c'est avant tout cette chimie incroyable entre Ford et Connery et par le fait que les deux hommes semblent véritablement s'amuser dans leurs rôles respectifs. On va assister également ici à une autre excellente introduction au film qui va nous présenter une aventure d'un jeune Indiana Jones dans lequel nous allons voir ses forces et ses faiblesses montrées d'une façon très rapide par le metteur en scène Steven Spielberg qui est ici en pleine possession de ses moyens. D'ailleurs, c'est la force de Steven Spielberg d'être capable de nous raconter une histoire d'une façon très précise et surtout avec beaucoup d'énergie. C'est un point d'ailleurs qui est important de souligner hein, parce que la réalisation de Steven Spielberg ici est impeccable et les scènes d'action sont encore une fois tournées d'une façon tout à fait spectaculaire. Du côté de la distribution, celle-ci en général est également excellente. Contrairement aux deux premiers films où on était étouffé par l'action et la musique, bien ici, on sent qu'on a beaucoup plus d'espace pour respirer. Est-ce que c'est parce que notre réalisateur et notre acteur principal commencent à prendre de l'âge? Je ne le sais pas, mais même la musique ici, c'est prendre sa place et étouffe beaucoup moins le spectateur, ce qui va également au niveau visuel. Cependant, du côté des points faibles, eh bien, on peut commencer à dénoter une légère perte de nouveauté dans le film. Celui-ci aussi contenait beaucoup moins d'action que ses prédécesseurs. Donc, bien sûr, la relation père-fils est beaucoup plus importante. Donc, on s'intéresse beaucoup plus à l'humour entre les deux personnages principaux. Mais ça a un prix, et ce prix-là, c'est que, au niveau de l'action, ça bouge beaucoup moins que les deux premiers volets. De plus, disons-le en toute sincérité, certaines scènes donnent un air de répétition, notamment à la fin du film où Indiana Jones fait exactement ce qui coûtera la vie à un personnage quelques instants auparavant, malgré le fait que lui-même connaît le dénouement funeste qu'aura eu cette action sur ce personnage-là et qu'aura cette action sur lui s'il la continue. Finalement, on rend le personnage de Marcus quelque peu ridicule, ce qui est dommage puisque ce dernier semble avoir subi une étrange transformation de comportement entre Raiders et The Last Crusade qui, soyons honnêtes, ne fonctionne tout simplement pas. C'est aussi dommage parce que ce sera le dernier rôle dans la franchise pour l'acteur Delholm Elliott qui décédera quelque temps après la production de Indiana Jones and The Last Crusade. Du côté musical, eh bien, comme je le disais un peu plus haut, c'est encore le compositeur John Williams qui réalise la musique du film. Lui qui a d'ailleurs réalisé la musique des deux autres films précédents de cette franchise, mais qui a également, bien sûr, réalisé la musique du film Star Wars, Jaws et Close Encounter of the Third Kind. Voici ici un segment musical de Indiana Jones and the Last Crusade. Thank you.
Say, this tastes great, Jimmy.
Yeah, it's Wall's Thrutney Corner with a new streamlined top.
Only Thrutnans? Well, let's get some more.
You can't help falling for a Wall's.
It's intermission time, folks, so hurry, hurry, hurry. Step right over to our refreshment center for the most extravagant array of refreshment goodies ever assembled under one roof. Enjoy breathtaking, mouth-watering goodies, everything from a snack to a delicious full meal. At our refreshment center, you'll find a large variety of goodies to satisfy your hunger, your thirst, or your sweet tooth. So hurry, hurry, hurry. Visit our refreshment center now. And now, on with the show.
This holiday season, dash on down to McDonald's for your own original Indiana Jones videos. Just $5.99 each with the purchase of any large sandwich all day long. Give the kids stocking stuffers that'll really bowl them over. Get an indie video at your McDonald's today for just $5.99 each. The best price ever with the purchase of any large sandwich any time of day. Collect all three. Just stop by McDonald's and ask for today's video. But hurry, because everyone is going to want one.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
La légende dit qu'un crâne de cristal a été dérobé dans une mythique cité perdue d'Amazonie. Probablement construite en or massif, gardée par des morts vivants. Quiconque retourne le crâne au temple de la cité recevra en échange le contrôle de son pouvoir.
Vous allez nous aider à le trouver. Simple oui suffira. Alors, nous allons employer, comment vous dites déjà, la bonne vieille méthode.
Non, baisse les bras, s'il te plaît. Tu me fais honte. Touche à rien, surtout.
Que je me boucherai les oreilles à ta place.
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, ou Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, est un drame d'aventure qui a été distribué en salle par les studios Paramount Pictures le 22 mai 2008. Ce film américain de plus de 122 minutes aura coûté plus de 185 millions à produire, mais ramassera plus de 790,7 millions à travers le monde entier. Toujours à la place du réalisateur se trouve le metteur en scène américain Steven Spielberg, qui nous avait donné AI, The Color Purple, Saving Private Ryan et Empire of the Sun. Du côté de la production, on y retrouve Frank Marshall, ce producteur américain qui avait produit des films tels The Warriors et la trilogie des Back to the Futures. Et finalement, le scénario sera écrit par le scénariste américain David Cope, lui qui nous avait donné The Paper, Bad Influence et bien sûr Jurassic Park en 1993. Au niveau de la distribution, eh bien, Indiana Jones sera pour une quatrième fois interprété par l'acteur Harrison Ford. À ses côtés, nous retrouverons Cate Blanchett, Karen Allen, Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent et Shia LaBeouf. En 1957, au Nevada, un archéologue est capturé par un commando soviétique dirigé par la redoutable Irina Spalko, qui est à la recherche d'une relique au pouvoir mystérieux. Indiana Jones parviendra à lui échapper et retournera alors à l'université de Princeton, où il fera la rencontre inattendue d'un jeune rebelle qui l'entraîne bien malgré lui sur la piste de cette relique tant convoitée. Un crâne de cristal à la forme étrange qui pourrait les conduire au légendaire temple d'Akator. L'archéologue vieillissant et son jeune compagnon se rendent donc ensemble au Pérou, où bien des découvertes surprenantes les attendent. Il faudra plus de 2 décennies pour voir Indiana Jones reprendre du service. Absent du grand écran depuis 1989, le 4e volet de ses aventures a été repoussé maintes et maintes fois depuis son annonce en 1994 en raison des emplois du temps surchargés de Steven Spielberg, George Lucas et Harrison Ford. Entre-temps, Lucas produira une télésérie de 28 épisodes intitulée « The Young Indiana Jones Chronicles ». C'est durant le tournage de l'un de ses téléfilms que l'idée de faire un film mettant en vedette un Indiana Jones plus âgé mijotera alors dans la tête de Lucas. En effet, ce dernier rêvait d'une action qui se situerait dans les années 50 et dans laquelle il pourrait rendre hommage à ses vieux films de science-fiction de série B de cette période et qui mettront alors Indiana Jones face à face avec des extraterrestres. Pourtant, lorsque Lucas va soumettre l'idée à Harrison Ford, l'acteur va s'y opposer car pour lui, Indiana Jones égale recherche des mystères de la culture passée. Il propose donc à Lucas d'en parler avec Spielberg et même Spielberg ne semble pas non plus être très emballé par l'idée de rajouter des extraterrestres. Pourtant, dès 1993, on établit des réunions concernant le futur Indiana Jones 4, sobrement intitulé Indiana Jones and the Martians, sur lequel l'équipe travaille jusqu'en 1996, année où sortira en salle le film Independence Day de Roland Emmerich, qui va alors faire un carton au box-office. Pour Lucas, cela clôturera l'affaire d'Indiana Jones, car avec le succès d'Independence Day, il est certain que les extraterrestres doivent être le sujet utilisé pour ce nouveau chapitre. Cependant, Lucas va devoir mettre de côté le projet d'Indiana Jones 4 puisque ce dernier va s'atteler à la prélogie Star Wars, soit Star Wars épisode 1, 2 et 3. Mais cependant, il allait embaucher différents scénaristes qui allaient travailler sur le long métrage à devenir, dont Jeb Stuart, Jeffrey Baum, qui malheureusement allait décéder en 2000, M. Night Shyamalan, Stephen Gagan, Tom Stoppard, Frank Darabont et finalement Jeff Nathanson. Il faudra cependant attendre en 2007 pour que le projet voie réellement le jour sous le nom d'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. C'est finalement le réalisateur Steven Spielberg qui, après avoir eu une conversation avec l'acteur Harrison Ford, lui demandant de faire un nouveau Indiana Jones, qui eut alors l'idée de demander au scénariste David Cope, qui avait déjà travaillé avec le réalisateur sur Jurassic Park et War of the Worlds, de repartir à la case départ avec une toute nouvelle histoire. Alors que certaines rumeurs annonçaient une quête autour de l'Atlantide ou du Jardin d'Éden, la révélation du titre officiel du film Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull validera l'orientation de ce nouvel opus vers la science-fiction. Avant que Lucas et Spielberg ne se décident sur le titre final, plusieurs autres titres avaient été évoqués et enregistrés auprès de la Motion Picture Association of America, dont Indiana Jones and the City of Gods, Indiana Jones and the Destroyer of Worlds, Indiana Jones and the Fourth Corner of the Earth, Indiana Jones and the Lost City of Gold, sans oublier Indiana Jones and the Quest for the Covenant. En projetant l'histoire durant les années 1950, il convenait de faire évoluer les ennemis de notre héros et les nazis seront alors remplacés par les soviétiques, l'histoire se déroulant tout simplement pendant la guerre froide. Malgré les critiques et moqueries dues à son âge avancé, Harrison Ford va se soumettre à un entraînement rugueux et à un régime très strict pour revenir en forme. Ainsi, il a pu réaliser lui-même la plupart de ses cascades comme au bon vieux temps. De plus, ce dernier entrera quelque peu en conflit avec les hauts dirigeants de la Paramount qui désiraient que toutes les scènes où Ford utiliserait son fouet soient réalisées avec l'aide de l'informatique afin d'éviter que l'acteur ne se blesse pendant le tournage, ce à quoi Ford refusa en traitant la chose de totalement ridicule et en fera tout simplement à sa tête en continuant d'utiliser son fouet comme il le fait dans les trois films précédents. Ford demandera également au scénariste David Cope d'inclure plusieurs blagues sur son âge avancé, celui-ci étant persuadé que cela aiderait à briser cette peur qu'avait l'Américain moyen de vieillir. En plus, Ford refusera de se teindre les cheveux pour lui donner un aspect plus jeune, ce dernier désirant être le plus authentique possible. C'est l'actrice Karen Allen qui va reprendre ici son rôle de Marion Ravenhood, tenue dans le premier volet de la saga. C'est Spielberg qui va annoncer à celle-ci par téléphone ses retrouvailles avec Andy, la comédienne ignorant alors totalement que son personnage était écrit dans le scénario avant l'appel du cinéaste. Pour succéder à Allison Doody, le réalisateur va choisir Kate Blanchett. Cette dernière, qui interprète Irina Spalko, une femme d'acier que rien n'affecte, qui a une mécanique de précision que rien n'arrête, qui n'a jamais un cheveu de travers, pas la moindre trace de boue sur ses bottes et qui est une véritable arme fatale, provoquera la réprobation de certains Russes. Il est à souligner que Blanchett était une véritable fan des Indiana Jones, ayant grandi avec tous les films de la franchise. Mais avant l'arrivée de cette dernière, plusieurs autres noms prestigieux furent avancés au fil de la longue gestation du projet, soit Sandra Bullock, Michelle Yeoh, Calista Flockhart et Virginia Madsen en Joan Girls. Même les noms de Natalie Portman en film du héros ou encore Kevin Costner en frère du Dr. Jones furent également annoncés. Puis, finalement, en 2002, Steven Spielberg va même annoncer le retour possible du personnage de Willie Scott d'Indiana Jones and the Temple of Doom, qui aurait été à ce moment-là campé par son épouse, l'actrice Kate Capshaw. Même Sir Sean Connery fut approché pour faire une courte apparition, mais ce dernier savourait alors une retraite bien méritée à la grande tristesse des fans de la franchise. Dans ce quatrième film, le jeune Shia LaBeouf fut choisi pour interpréter le personnage de Mott Williams. LaBeouf avait été repéré par Spielberg dans le film Transformers. Très emballé à l'idée de rejoindre la distribution du film, le jeune homme signera alors son contrat sans même lire le scénario. Il sera alors soumis à un entraînement drastique, au sabre et au couteau, tout en se musclant pour gagner une petite dizaine de kilos. Malgré ça, LaBeouf s'est blessé pour la toute première fois de sa carrière sur cette production. Malgré un problème musculaire dans la région de la hanche, il va poursuivre le tournage, provoquant ainsi de terribles douleurs au niveau de l'aine. Il est à noter que le nom de son personnage, Mott Williams, a été donné en l'honneur du compositeur de musique John Williams. John Hurt et Ray Winstone acceptèrent de jouer dans ce quatrième volet des aventures de Indiana Jones, mais seulement après avoir lu le scénario qui leur fut livré à leur porte via un coursier qui attendra que les hommes finissent de lire le script avant de repartir avec ce dernier. Malgré les efforts de Spielberg et de Lucas, les secrets du tournage d'Indiana Jones 4 ne cessèrent d'être dévoilés sur Internet au fil de la production. Fin septembre 2007, Tyler Nelson, un jeune danseur russe figurant, avait ainsi publié sur son site Internet des détails du scénario. Malheureusement pour lui, le jeune imprudent n'avait même pas pris la peine de cacher son identité, malgré le fait qu'il avait signé une clause de confidentialité l'obligeant au silence. Lucasfilm l'assignera alors en justice, tandis que Steven Spielberg fera part de son intention de supprimer toutes les scènes où le jeune acteur avait apparu à l'écran. Mais une semaine plus tard, surviendra le vol d'ordinateurs et de photos de tournage dans les bureaux de la Universal Pictures. Le responsable, Roderick Eric Davis, sera alors arrêté et condamné à 28 mois de prison alors qu'il tentait de vendre son butin pour la modique somme de 2 000 $. L'idée de la fille d'Indiana Jones fut très rapidement présentée dans différents scénarios, mais c'est Steven Spielberg lui-même qui en décidera autrement. Le tournage débutera alors en juin 2007 et se situera alors au Nouveau-Mexique, au New Haven, au Connecticut, à Hawaï et finalement à Fresno, en Californie. Le tournage s'achèvera en octobre de cette même année et il s'agira ici du seul film de la franchise à avoir été tourné entièrement aux États-Unis. La scène du réfrigérateur au début du film est une scène qui fut prise du scénario original du film Back to the Future qui fut réalisé en 1985. En effet, dans cette scène, Marty McFly et Doc Brown se servaient d'un frigidaire situé près d'un site servant à l'explosion de bombes nucléaires pour voyager dans le temps. Avec le temps, le frigidaire fut heureusement remplacé par une DeLorean. Pour la direction photo, Spielberg embauchera alors Janusz Kaminski, avec qui il avait déjà travaillé sur The Color Purple, pour remplacer Douglas Slocombe, qui venait de prendre sa retraite. Du côté des effets spéciaux, le cinéaste désirait se tenir le plus loin possible des effets spéciaux faits par ordinateur. Malheureusement, il a dû se résigner à se servir de cette technologie qui fut finalement employée sur plus de 30 % des images du long métrage, tout spécialement dans la séquence de poursuite située dans la jungle. La relation entre Spielberg et Shia LaBeouf se détériorera lors de la production du film lorsque ce dernier commencera à parler négativement de son rôle sur la production. Même Harrison Ford fut offusqué par les commentaires du jeune homme qui sera alors mis à la porte de tout projet futur relié à Indiana Jones et à Steven Spielberg. Cela marquera également le début des problèmes de LaBeouf pour obtenir d'autres rôles à Hollywood. Retenu sur le tournage de La Momie 3, le coordinateur des cascades Vic Armstrong, à l'œuvre dans les trois premiers volets des aventures d'Indiana Jones, ne sera pas présent pour ce quatrième volet de la saga. Du côté de l'acteur John Rhys-Davies, interprète de l'inoubliable Salah, eh bien celui-ci devait réapparaître à la scène finale du mariage, mais malheureusement, il trouvait que c'était un manque de respect envers son personnage que de l'entrevoir tout simplement comme un vulgaire figurant et refusera alors d'apparaître dans le film. Si la sortie du film était prévue le 22 mai 2008, eh bien le long métrage a quand même eu droit à une première dans le cadre du 61e Festival de Cannes. Malgré un accueil nettement moins favorable que les trois précédents volets, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull générera presque plus de 790 millions de recettes au box-office mondial. Le film remportera le prix des meilleurs costumes au Saturn Award de 2009. De plus, John Williams remportera à nouveau le prix de la meilleure musique du film au 51e Grammy Awards. Cependant, le film remportera également le prix du Razzie Award pour la pire suite de l'année. Il s'agira d'ailleurs ici du seul film de Steven Spielberg à avoir remporté un Razzie dans toute sa carrière. Et ce sera également le seul film de la franchise à n'avoir obtenu aucune nomination aux Oscars. Fait étonnant ici quand on sait que George Lucas a quasiment inventé le merchandising lié au film, il n'a pas produit de jouets à l'effigie d'Indiana Jones avant l'année 2008, dans lequel il va s'associer avec la compagnie Hasbro. Au niveau de la commercialisation, il s'est beaucoup plus concentré sur le fameux Fedora, la veste de cuir, des chemises ou encore des montres pour en faire un symbole de style de vie. Si de nombreux romans, comics et jeux vidéo basés sur les aventures de l'archéologue voient le jour dès la sortie du premier film, le succès sans égal d'Indiana Jones a surtout permis la renaissance des héros aventuriers. L'archéologue, ayant lui-même été inspiré par James Bond, est devenu lui aussi un modèle pour de nombreux personnages de la culture contemporaine, tels que les Lara Croft de Tomb Raiders, Nathan Drake de Uncharted ou encore Benjamin Gates de National Treasure. En décembre 2013, Paramount Pictures vendra alors ses droits de distribution à la compagnie Disney suite à l'acquisition de cette dernière de la compagnie Lucasfilm en octobre 2012. Cela permettra à la compagnie Disney de lancer le projet d'Indiana Jones numéro 5. Du côté des points forts, eh bien écoutez, après plus de 20 ans d'absence, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull continue de nous donner de l'action et des émotions comme dans tous les autres films de la franchise. De plus, les situations over the top sont encore au rendez-vous, comme les fourmis mangeuses d'hommes, un combat à l'épée entre deux personnes debout sur deux véhicules côte à côte fonçant à grande vitesse dans une jungle parsemée d'embûches, ou la découverte de vieilles grottes parsemées de pièges et d'énigmes, comme seul l'univers d'Indiana Jones est capable de le faire. Donc, c'est un film qui est toujours plaisant de regarder, surtout si on a conservé notre cœur d'enfant et d'explorateur. Le visuel, cependant, est quelque peu différent des trois autres films de la série, mais cela va donner lieu à des images très spectaculaires, telles que celle où Indiana Jones est debout et regarde un champignon atomique suite à l'explosion d'une bombe nucléaire. Bien que les acteurs principaux aient quelque peu vieilli, il est toujours plaisant de retrouver la chimie entre Indiana Jones et Marion Ravenhood, bien que Marion se soit quelque peu assagie avec le temps, car en aucun moment cette dernière ne frappera l'aventurier, réaction que l'on s'attend toujours de voir à n'importe quel moment. Cate Blanchett et John Hurt ici volent tout simplement le spectacle. L'aspect des années 50 est également très bien montré, spécialement la course aux sorcières reliée au communisme durant cette période. En résumé, je pourrais dire qu'on a l'impression de retrouver de vieux amis dans cette aventure, amis qui, oui, ont certes vieilli, mais dont la verve et la passion sont demeurées intactes avec le temps. Cependant, du côté des points faibles, bien, écoutez, il semble que plusieurs segments semblent avoir dérangé les fans à la sortie du film. Un des premiers segments est cette séquence où Indiana Jones échappe à une explosion nucléaire en se réfugiant dans un frigidaire. La scène est effectivement over the top, mais après tout, il s'agit d'Indiana Jones ici, un homme qui a failli être écrasé dans sa première aventure par une gigantesque pierre roulant vers sa direction, un homme dont le chariot, dans une séquence de poursuite dans les mines de l'Indre, dans Temple of Doom, saute dans les airs lorsque les rails sont détruits, vole dans les airs pendant un moment et retombe de l'autre côté d'un petit ravin sur ces mêmes rails, sans dérailler. C'est ce qui fait le charme d'Indy, cet aspect loufoque et exagéré qui font en sorte que ce personnage est un personnage presque indestructible. Le second événement qui semble avoir dérangé beaucoup, c'est le fait qu'en bifurquant vers la guerre froide, eh bien, ça nous amène dans cette espèce d'aspect 1950 ou, si vous préférez, l'aspect science-fiction. Beaucoup de gens ont été dérangés par l'aspect ou l'arrivée des extraterrestres et on considère cela comme étant « over the top » encore une fois. Mais il faut se rappeler que dans le premier film, on était confronté à l'Arche d'Alliance. Dans le second film, on était confronté à la magie noire et cette fameuse séquence où un sorcier hindou va arracher le cœur du corps d'un homme qui demeure vivant même sans son principal organe vital qui continue à battre dans la main du sorcier et finalement le Saint Graal qui guérira miraculeusement la blessure de Jones' père qui avait alors reçu une balle dans le ventre. Donc, pour moi, les extraterrestres, c'est pas si over the top face à ce qu'on a déjà vu dans les films précédents. Cependant, ce que je vous dirais, là où vraiment on peut sentir qu'il y a des problèmes, bien, on sent l'âge avancé d'Harrison Ford ici, qui est dans la soixantaine, tout spécialement ici dans les moments où on le voit courir. Et ça, bien, ça brise un petit peu le visuel et la crédibilité d'un Jones qui semble être capable de faire tout ce qu'il fait dans ce film-là sans avoir un infarctus par la suite. De plus, je vous dirais que l'utilisation du CGI peut par moments être dérangeante, alors que dans les précédents films, on nous avait habitués à des scènes réelles. Ici, bien, il y a certaines séquences qui tombent à plat, notamment la séquence de ces fourmis mangeuses d'hommes qui transportent leurs victimes dans leur nid après être entrées en trop grande quantité dans la bouche de ces derniers. Parlant vieillesse, on sent aussi que toute l'équipe a vieilli au niveau de la production et on peut sentir dans certaines séquences quelques moments de paresse au niveau non seulement de la création, mais de la production de certaines scènes. Finalement, la grosse déception au niveau de la distribution est Shia LaBeouf, qui semble par moments overacter son rôle et dont le personnage devient pratiquement antipathique alors qu'il devait être un héros. Je crois que Spielberg a manqué le bateau ici et ça aurait été peut-être beaucoup plus intéressant de voir Indiana Jones avec une fille qu'avec son fils. Pourquoi? Imaginez Indiana Jones qui est un gars macho et se retrouver avec une fille, surtout dans la période des années 50, qui est aussi macho que lui et qui fait exactement les mêmes choses que lui. Ça aurait donné quelque chose de beaucoup plus intéressant que de revoir encore une relation père-fils, relation qu'on avait déjà vue dans le film précédent. Du côté musical, eh bien, juste vous dire que c'est encore une fois le compositeur américain John Williams qui est présent. John Williams qui était compositeur de la musique de Towering Inferno, Superman et de Fury. Je vous présente ici donc un extrait musical de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. côté de la trame sonore du film, on va parler d'Indiana Jones and the Last Crusade. Le CD original est sorti sous l'étiquette Warner Brothers Records le 23 mai 1989. Vous avez une édition Expanded Edition qui a été distribuée sous l'étiquette Concord Records le 17 février 2009. Du côté de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, eh bien, encore une fois, c'est une trame sonore qui est sortie en CD sous l'étiquette Concord Records le 20 mai 2008. Du côté des cotes artistiques, eh bien, du côté de Indiana Jones and the Last Crusade, le film à l'époque était coté 3. Aujourd'hui, il est maintenant coté 4. Moi, j'y vais quand même avec un 3. Je pense que la chimie entre Harrison Ford et Sean Connery est parfaite. Et j'aime beaucoup cet aspect père-fils qui est apporté dans le film. Donc, je trouve ça un petit peu dommage du côté de Mediafilm que les deux derniers films de la franchise, que ce soit Temple of Doom ou Indiana Jones and the Last Crusade, là, qu'on ait rabaissé les cotes de 3 à 4. Moi, personnellement, je pense que les cotes originales devraient demeurer. Au niveau de l'âge, eh bien, Indiana Jones and the Last Crusade était coté général à l'époque. Moi, j'y vais avec un pour tous, malgré quelques scènes de violence. Du côté de Indiana Jones and The Kingdom of the Crystal Skull. Et bien, même chose, Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec un 4. Encore une fois, je pense qu'on a manqué le bateau à certains niveaux. Je pense qu'il y a certaines scènes qui font que Indiana Jones, interprété par Harrison Ford, bien, Harrison Ford est trop vieux pour la façon que les séquences ont été filmées. Mais en général, je pense que Spielberg a fait quand même une bonne réalisation dans l'ensemble et nous permet, bien sûr, d'accepter ce que fait Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones. Au niveau de l'âge et du contenu, bien, la régie du cinéma a coté le film général. Moi, j'y vais aussi également avec une cote pour tous, malgré quelques scènes de violence. Au niveau de la sortie du DVD et du Blu-ray, eh bien, tout comme les deux films précédents, eh bien, tous les films sont inclus dans des coffrets maintenant, que ce soit en DVD, en Blu-ray et même en 4K. La version DVD et la version Blu-ray, vous pouvez avoir les deux langues. Cependant, dans la version 4K, je viens de découvrir que, malheureusement, les films ne sont qu'en version originale anglaise. Restera à savoir si, à un moment donné, on aura une version 4K avec les films dans les deux langues.
C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast. Mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater. We'll be right back.